7h22 minutes à Boulevard Against le matin. 88-971-1021, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio. Vous pouvez aussi nous voir via le Twitch. Twitch.tv, BLVD, barre en bas, FM. Puis une belle communauté qui aime communiquer entre elles. C'est ce que j'essayais d'exprimer. Hier, ça a été une grosse soirée. On l'attendait depuis un bon moment déjà. Ça a été une bonne soirée pour certains. On peut penser à Paul Saint-Pierre Plamondon et Alex Boissonneau du Parti québécois. Alex Boissonneau qui est le nouveau député de la circonscription d'Arthabasca. Troisième victoire de suite pour le Parti québécois dans une élection partielle. Et ça a été une moins bonne soirée pour certains. Et je pense tout particulièrement à Éric Duhaime. On s'attendait à une chaude lutte à deux entre Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, et Alex Boissonneau du Parti québécois. Puis finalement, assez tôt dans la soirée, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas vers là où on s'en allait. Tout était toujours possible jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, l'écart ne faisait que se creuser. Et finalement, Alex Boissonneau a récolté près d'un vote sur deux qui a été fait dans les dernières semaines, si on compte le vote par anticipation dans Arthabasca et avec la journée de vote officielle d'hier. Et Éric Duhaime a fini à peu près 10 points de pourcentage derrière. Et là, certains commentateurs politiques disaient « Bon, là c'est l'heure pour Éric Duhaime d'être l'adulte dans la pièce, dans son discours de défaite. » Après cette cuisante défaite qui n'était pas attendue. Et c'est l'heure pour Éric Duhaime de montrer qu'il est digne de pouvoir éventuellement accéder à l'Assemblée nationale, parce qu'il va continuer de s'essayer, puis ça va bien peut-être arriver un jour. Puis... Et là, je me demandais comment il allait commencer son discours de défaite. Est-ce qu'il allait commencer par féliciter Alex Boissonneau, parler d'une belle campagne? Est-ce qu'il allait commencer par admettre certaines erreurs? Mais finalement, Éric Duhaime a commencé son discours de défaite de même.
Ce soir, dans Tabasco d'Érable, on a manqué une occasion historique de corriger la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec.
Fait qu'il a comme commencé en blâmant ceux qui ont voté de ne pas avoir voté pour la bonne affaire. C'est de même que tu le comprends aussi, Jacinthe?
Ben, je vois pas ça comme un blâme, mais c'est clairement, il a commencé en répétant ce qu'il a utilisé beaucoup durant la campagne, cette fameuse distorsion de notre système électoral qui fait en sorte qu'il a pu avoir 530 000 électeurs qui ont voté pour un parti, le Parti conservateur, aux élections de 2022 et qui n'ont aucun siège à l'Assemblée nationale. Cette fameuse distorsion, parce que il utilise le terme distorsion parce que pour le même nombre d'électeurs, on a eu un parti libéral qui a des sièges à l'Assemblée nationale. Mais en mettant l'accent là-dessus, en commençant son discours là-dessus, on répétait encore un argument qui a été largement utilisé
exact.
Durant la campagne.
Et il a poursuivi là-dessus aussi dans les instants suivants.
Puis c'est ça qui, des fois, est lourd pour un chef du Parti conservateur du Québec dans le contexte québécois actuel. C'est qu'il y a encore 530 000 Québécois qui ne feront pas leur entrée à l'Assemblée nationale. Il y a encore plus qu'un Québécois sur huit qui va avoir zéro représentant sur 125 dans la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Puis aujourd'hui, là, c'est pas juste le Parti conservateur du Québec qui a perdu, c'est la démocratie québécoise.
Puis c'est là où j'ai un problème, les derniers mots, de dire que la démocratie québécoise a perdu parce que lui a perdu et le Parti conservateur du Québec a perdu. La démocratie n'a pas perdu hier, dans le sens où, oui, Éric Duhaime, je pense qu'on est plusieurs à le penser, dans un monde idéal, représenterait les Québécois qu'il a représentés à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on est plusieurs à s'entendre là-dessus. Mais c'est un vote démocratique qui a été fait dans Arthabasca. Puis les gens avec plus de 10 % d'écart ont choisi d'envoyer un nouveau député du Parti québécois. Fait que je trouve ça poche un peu de voir Éric Duhaime sortir hier puis parler d'une défaite pour la démocratie. Non, il y a eu un vote démocratique. Et avec ce vote démocratique-là, ben c'est la population qui a choisi de ne pas t'envoyer à l'Assemblée nationale. tu peux pas sortir après puis parler d'une défaite pour la démocratie.
C'était probablement des phrases qu'il avait envie de dire, mais qui n'étaient pas écrites dans un discours de défaite. J'espère que c'était pas écrit dans un discours de défaite. C'était,
sinon, je ne sais pas qui a écrit ça, mais...
Oui, exactement. Si j'avais été auprès de lui hier soir, j'aurais dit « Va t'asseoir, prends le temps de respirer un bon 10 minutes. »
Ah, puis on en a parlé.
« Et assure-toi de commencer ta lecture d'un texte déjà écrit pour ne pas tomber dans, justement, ces phrases-là, en partant en plus. »
Tantôt, on en a parlé, après avoir joué pour la première fois, un ou deux extraits, puis Jacinthe m'a demandé, est-ce que tu sais, là, tu as sorti les extraits, est-ce que tu avais le visuel aussi? Puis j'ai dit oui, hein, il était... Puis je suis content de ne pas avoir été le seul à le remarquer. Éric Duhaime avait l'air pompé noir. Ouais. Il avait l'air en Simonac, mais tu sais, Éric Duhaime, c'est un gars de c'est un communicateur ouais. Sensationnel, c'est un gars qui est pas mal toujours en contrôle de ses émotions, puis en contrôle des mots qui vont sortir de sa bouche. Puis c'est un gars brillant, Éric Duhaime.
Ouais.
Hier, il était rouge. Tu le voyais dans son non-verbal, il était pas de bonne humeur. Puis ça vient comme ajouter, puis on l'entend dans ses propos, il est fâché d'avoir perdu. Puis il n'a pas été l'adulte dans la pièce. Puis ça a paru justement à cause, oui, des mots qui ont été mentionnés que je viens de vous faire entendre, puis on a d'autres à venir, mais aussi dans son non-verbal, là, il n'était pas de bonne humeur.
Il a passé plus d'un an dans cette circonscription-là,
oui.
Avant même le lancement de la campagne officielle, à se promener, sillonner les rues. Il s'est pris un logement, donc il y avait une adresse dans la circonscription. Il s'est pris un logement ou une maison qu'il a loué là-bas, ou acheté, je ne sais pas, là, mais il habitait dans la circonscription. Et là, il s'est investi corps et âme. Il a mis énormément de temps à connaître les citoyens, connaître la circonscription, jaser avec eux, mais là, pas pendant quelques semaines, pas pendant quelques mois, là, on est sur plus d'un an. C'est sûr que tout ce travail-là, qui se traduit par une défaite de 11 % d'écart avec le vainqueur, c'est extrêmement choquant. On peut tous comprendre ça, là. Hey, t'as investi plus d'un an de ta vie à travailler comme un fou sur un projet et tu termines deuxième avec 11 % d'écart. On prédisait, plusieurs commentateurs, plusieurs analystes prédisaient une victoire au Parti conservateur. Donc, c'était une prédiction. Vous l'avez faite vous-même, les gars, ici, en onde hier, vous prédisiez une victoire au Parti conservateur. Donc, non seulement d'assumer cette défaite, mais cette défaite de 11 %, ça y est rentré dans le corps et il aurait dû prendre quelques instants de plus pour se calmer parce qu'effectivement, toutes les oreilles étaient ouvertes et attentives hier à son discours et j'entendais des commentateurs sur les ondes de RDI, sur les ondes de LCN dire « Là, dans son discours, il va se positionner pour la suite de sa carrière, pour la suite de sa chefferie. On va voir de quelle hauteur il est capable d'avoir dans la défaite et de commencer son discours avec ces phrases-là. C'était très émotif de sa part et c'était pas stratégique.
Oui, puis mais pour moi, c'est un peu à l'image de sa campagne, puis j'en ai parlé souvent. C'est une partielle, c'est une campagne qui est censée être très régionale. Puis le début de son discours, c'était à l'image de sa campagne. Je veux dire, il a fait campagne sur la distorsion démocratique énormément. Il a mis l'accent sur ça, il a imposé un poids à la population d'Athabasca qu'eux autres, leur devoir, c'est juste voter pour la personne qui va mieux les représenter. C'est pas de changer le processus démocratique du Québec. C'est de choisir la personne qu'ils veulent qu'ils les représentent. Fait que pour moi, c'était juste à l'image de sa campagne, puis c'est à l'image d'une partie de sa campagne qui lui a fait mal, selon moi également.
C'est facile à dire après coup. Très facile à dire après coup, mais je veux qu'on entende... je vais poser la question, on va entendre l'extrait puis on va répondre après. Est-ce qu'Éric Duhaime a bien fait de se présenter maintenant dans Athabasca à place d'attendre les prochaines élections générales, sachant ceci?
C'est au mois de novembre que la décision a commencé à se prendre que je pourrais être candidat, là, qu'on a commencé à vraiment en discuter ouvertement, que j'ai parlé à Tarek Hinoud, que je salue d'ailleurs, qui a été notre candidat ici. En novembre, vous vous souvenez, plusieurs d'entre vous étiez là. On avait fait un conseil général ici même à Victoriaville. Et on avait commandé un sondage d'une firme scientifique là, pour essayer de voir quelle était la position puis qu'est-ce que c'était jouable. Puis aujourd'hui, je vais vous le révéler parce que je veux quand même que vous soyez optimiste par rapport à la progression qui a été faite dans les 6-7 derniers mois. Notre sondage nous mettait 3e à 20 %. OK? Quand on a décidé d'y aller, là, c'était un pari risqué. On savait que, mais c'était un risque calculé. On pensait qu'on avait la force, l'énergie pour monter beaucoup plus haut.
D'un côté, bravo pour la progression.
Ben oui.
De l'autre, avec ces informations-là, c'est pas un peu un suicide politique de te lancer. Puis comme je dis, bravo pour la progression, là, c'est sensationnel, bravo.
Ouais.
T'as fini par perdre par 10 points pareil, là, mais je suis pas sûr qu'à la place d'Éric Duhaime, je me demande un peu qui a pris la décision. C'est-tu lui qui était tellement sûr de lui, que personnellement, qui était capable, puis que c'est lui qui voulait y aller? Pas sûr qu'il a été conseillé politiquement pour ça.
C'est vrai que t'as raison de dire que c'est facile après coup de juger de cette décision-là,
oui.
Mais c'est vrai que le risque était énorme d'avoir 20 % d'appui dans les sondages.
Ça, on ne le savait pas, nous.
Non, on ne le savait pas. C'est une primaire qui nous a annoncé.
Exact.
Hier. Ouais. C'est une primaire qui dit, regardez, gardez quand même espoir. On est parti de 20 % d'appui dans les sondages. On termine avec 35 %, donc il y a eu un gain de 15 % par rapport aux prédictions de l'automne dernier. C'est un gain, mais ça n'a pas été suffisant. C'est un grand risque qu'il a pris. En même temps, il y avait une énorme pression aussi pour qu'il se présente. Je ne sais pas à quel point les commentateurs, les analystes, les médias, les journalistes...
Il aurait eu l'air d'un peu heureux.
Les militants, oui, c'est ça. Il y avait un grand discours là, dominant. Il y avait, ça se disait qu'il n'y avait pas le choix d'y aller,
ouais.
Parce qu'il fallait qu'il démontre qu'il avait confiance en son parti, qu'il avait confiance en lui aussi, et que puisque c'était une circonscription qu'on savait qu'il allait être perdu par le gouvernement en place, mm-hmm. Ben, les chances étaient quand même bonnes de vouloir le faire remplacer.
Il y avait comme pas le choix.
Il n'y avait pas le choix. Ouais.
Maintenant, on a entendu son début de discours. On a entendu parler de belles progressions. On y croyait, on pensait qu'on pouvait y arriver malgré des premiers sondages difficiles. Là, on se tourne vers la suite. Puis, une des questions qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'Éric Duhaime est encore l'homme de la situation pour le Parti conservateur du Québec malgré cette belle progression-là? Puis surtout quand là, on le regarde aller, Éric Duhaime. Puis on l'entend quasiment dire, puis on va l'entendre dire au début, c'est pas une campagne parfaite, il n'y a pas de campagne parfaite, mais il n'a pas l'air à se remettre beaucoup en question.
Une campagne parfaite, ça n'existe pas, mais je vois difficilement des choses qu'on aurait pu faire mieux dans le contexte actuel. On a mené une campagne excessivement positive comparée à nos adversaires, probablement la campagne la plus positive. Et ça, je veux vous remercier de ça. Et votre travail... Votre positivisme, bien, il a payé. Parce qu'en l'espace de 7-8 mois, on est passé de 20 % dans les sondages. On a dépassé le 25 % qu'on avait fait en 2022. Et ce soir, je ne sais pas, on va finir à 35, 36, 37, 38 %. Il reste encore des boîtes à compter. Mais on va s'approcher du 40 %. On est le parti qui progresse tout le temps.
La campagne la plus positive voit difficilement qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Je peux te donner une petite idée de rette là. Tu peux être plus local puis moins parler de « vous devez me faire gagner pour que j'entre à l'Assemblée nationale ouais. ». Juste là, je trouve qu'on a une bonne piste de solution.
Oui, t'as raison. Il faut qu'il sorte de sa chambre d'écho et qu'il aille à la rencontre de gens extérieurs, des gens qui ne l'ont pas conseillé durant cette campagne-là. Parce que c'est sûr que tous ceux qui étaient autour de lui durant la campagne et qui participaient aux stratégies ou participaient à le conseiller... sont les moins bons en ce moment, les moins bien placés pour faire une rétroaction honnête, mm-hmm. objective, moins partiale. Ils sont partie prenante de ces stratégies-là, des prises de décision. Alors, je pense qu'il y a tout intérêt à sortir de sa chambre d'écho, aller voir les gens qui sont un peu plus éloignés de lui, en périphérie plus éloignés, pour dire comment vous voyez que j'aurais pu faire les choses autrement. Est-ce que vous voyez que j'aurais pu faire les choses autrement? Parce que de tirer déjà ce constat-là à chaud, le soir même, de dire je vois pas ce qu'on aurait pu faire ouais. de différent, c'est déjà une fermeture d'esprit qui va pas aider le parti.
À un certain moment de son discours, ça a été long un peu, mais Éric Duhaime a fini par féliciter ses adversaires. Bon, il s'est trompé de nom dans la candidate libérale. Les félicitations n'ont pas duré longtemps. Puis ça, je trouve que ça a été maladroit un peu de... Tu sais, tu peux dire ce que vous allez entendre à la fin de l'extrait. Quand Éric Duhaime se pompe, puis ça aurait pu se retrouver quelque part dans le discours sans problème. Là, j'ai trouvé ça maladroit que ce soit félicitations, mais nanana distorsion. Voici l'extrait.
Je veux féliciter aussi, évidemment, les autres candidats. Je pense à Chantal Moreau du Parti libéral, je pense à Kevin Brassard de la Coalition Avenir Québec, je pense à Pascal Fortin de Québec solidaire, mais aussi et surtout, évidemment, à celui qui a gagné ce soir, Alex Boissonneau du Parti québécois. Puis, je veux vous dire que... Non, huez pas, là. Je veux vous dire une chose, là. Ce qui est le plus triste aujourd'hui, là, c'est qu'on est 61 % des gens à penser que ça n'a pas de sens d'interdire la vente des véhicules à essence au Québec à compter de 2030 ou 2035, puis il n'y en a pas un à l'Assemblée nationale sur 125 qui va défendre la majorité. On est 56 % à dire qu'il faut abolir la taxe carbone, puis il n'y en a pas un demain qui va se lever pour dire qu'il faut abolir la taxe carbone. On est majoritaire à penser qu'il faut du privé en santé, puis il n'y en a pas un qui va se lever pour dire ça. La même chose avec nos ressources naturelles. On est le seul parti qui dit qu'il faut exploiter notre gaz, notre pétrole, qu'il faut construire des oléoducs, des gazoducs. Il n'y a pas un parti qui va défendre la majorité sur ces enjeux-là.
Tu sais, comme je dis, c'est correct la fin qu'on a entendue quand il se crinque un peu puis il parle, parce que c'est vrai ce qu'il dit.
Oui.
C'est vrai qu'il y a bien des Québécois qui, du côté de ces enjeux-là, sont du côté du Parti conservateur du Québec, qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Puis c'est vrai que parmi les partis qui sont à l'Assemblée nationale, ben, il y a beaucoup de consensus sur ces enjeux-là. Tout ça est vrai. Ce que j'ai trouvé maladroit, c'est de le brancher sur les félicitations, mais puis là, de repartir... Ce discours-là avait l'air très mal ficelé. Je sais pas à quel point il a été préparé, puis à quel point Éric Duhaime en est sorti. Puis je trouve que c'est une belle occasion ratée pour Éric Duhaime d'avoir l'air d'un adulte dans la pièce.
Peut-être qu'il n'y avait pas de discours de défaite de préparer. C'est ce que ça donne comme impression, ouais. Qu'il n'y avait pas de discours de défaite de préparer. Effectivement, les félicitations aux gagnants et aux autres candidats sont brèves et timides. On passe vite à cette portion où on dit que... où on explique, dans le fond, ce qu'il a utilisé durant la campagne électorale, qu'il semble avoir unanimité sur plusieurs enjeux à l'Assemblée nationale, mais que cette Assemblée nationale-là, dans cet unanisme sur certains points... démontre un espèce d'élitisme qui est déconnecté de la population. Mmh. Il a raison et c'était des très bons points que j'aurais insérés aussi dans un discours de défaite. Ces fameux pourcentages de population qui ne supportent pas certaines idées qui sont appuyées par 125 députés à l'Assemblée nationale, c'était fabuleux. C'était juste pas le bon moment dans le discours de le dire, mais c'était excellent de mentionner ça dans le discours, mais tout de suite après les félicitations très timides des autres candidats, c'était particulier. C'est là où je dis il a manqué de préparation dans cette rédaction d'un discours de défaite. Peut-être qu'il n'en voulait pas, peut-être qu'il ne voulait pas se mettre dans cet esprit-là. Donc, on ne préparera pas un discours de défaite. C'est comme programmer une défaite, on ne veut pas ça. Mais en même temps, comme tout bon conseiller qui devait avoir autour de lui... moi, j'aurais été conseillère autour de lui, j'y en aurais préparé une. Puis le soir de la défaite, j'aurais dit, écoute, je t'ai préparé quelque chose. Tiens-toi à ça, je te sens émotif, je te sens en colère, je te sens réactif. Là. Tiens-toi à ça, je te connais bien, ça fait longtemps que je te supporte. Voici, lis mot pour mot ce qu'il y a là-dedans. Sors pas du texte. Je comprends pas qu'il n'y a pas quelqu'un dans son entourage qui n'a pas préparé ça. En même temps... Éric Duhaime, c'est un authentique. Éric Duhaime joue pas de cassette, joue pas de game. Il a voulu se laisser aller dans ses émotions et être authentique. Donc, on a aussi le vrai visage d'Éric Duhaime et on voit qu'il est très déçu, on voit qu'il est combatif aussi et on voit qu'il continue de trouver que... malheureusement, on va être encore avec une Assemblée nationale un peu déconnectée ou élitiste. Puis là-dessus, c'est un sacré bon point.
Oui, absolument.
Puis je suis d'accord avec Jacinthe. Puis il y a des textos qui rentrent, là, justement, d'auditeurs qui disent « Non, mais il parle avec son cœur. »
Ouais.
Puis on aime ça. Puis il y a beaucoup de ses électeurs, de sa base électorale, que c'est justement ça, qu'ils ne veulent pas justement quelqu'un qui arrive avec un discours, ils veulent quelqu'un qui leur parle.
Ouais.
Mais... sa base électorale aime ça.
Ouais.
À quel point il va pouvoir aller chercher plus de personnes en faisant de la politique de la sorte? Est-ce qu'il va être capable de... Parce que là, 35 % dans Arthabasca, est-ce qu'on a connu hier le maximum qu'Éric Duhaime, à la chefferie du Parti conservateur du Québec, peut aller chercher? C'est quand même une question à se poser.
Parce que c'est vrai que ses électeurs, ses militants veulent l'entendre comme ça, aiment ça de lui, mais en situation de défaite importante à 11%, tu veux parler aussi aux 4130 quelques électeurs qui te séparent d'Alex Boissonneau, le candidat gagnant. Là. Tu veux que ces 4000-là, ouais. et même tu veux que les électeurs d'Alex Boissonneau écoutent et se disent « Ah! » Ah!
Ça aurait pu être mon homme aussi.
Finalement, il n'est pas si pire ouais. que ça. Ou, ah! Sais-tu que j'écoute son discours de défaite et je me dis, je m'étais fait une opinion peut-être biaisée de lui. Là, on n'a pas démenti. Tu sais, ce discours-là n'est pas un discours qui vient démentir les perceptions qu'on pouvait avoir de lui.
Puis là, tu parles des électeurs d'Alex Boissonneau, mais au Québec en entier aussi, ben là, oui. ça va arriver ben oui. vite 2026 et Éric Duhaime compte bien y être.
Aujourd'hui, c'était juste une bataille. Oui, on a perdu une bataille, mais il y a une guerre qui s'en vient. Puis la guerre, là, c'est octobre 2026. On dit que les défaites donnent plus de leçons, puis on apprend plus, puis on sort plus fort d'une défaite que d'une victoire, mais je peux vous dire que celle-ci, on va sortir mauditement fort. Puis je veux qu'on soit tous là, puis je veux que demain matin, on recommence à défendre les gens qui se lèvent tôt, qui travaillent fort, puis qui nourrissent les Québécois. Je veux être avec ces gens-là, je veux qu'on représente ces gens-là. Puis ça sera pas à l'Assemblée nationale, en tout cas pas tout de suite, mais maudit qu'on va rentrer fort, puis on va être nombreux en octobre 2026, parce que ces gens-là ont besoin de représentation, parce que le Parlement actuel, il est pas représentatif de la réalité québécoise. Merci beaucoup, tout le monde! Bonne soirée!
418-971-1021, qu'avez-vous pensé du discours de défaite d'Éric Duhaime hier soir? Je vous rappelle que c'est Alex Boissonneau qui est le nouveau député provincial dans Arthabasca, gagné par une bonne marge d'à peu près 10%. Et Éric Duhaime qui n'était pas de bonne humeur. Au retour...
Alex Boissonneau, on va le recevoir tantôt à l'émission à 9h15.
En effet, bien hâte de jaser avec lui. On devait d'ailleurs recevoir Éric Duhaime aussi, qui malheureusement a décidé de ne pas donner d'entrevue, là, après les résultats d'hier soir. Au retour de la pause, on fait un petit tour des réactions de défaite, du discours de défaite de François Legault. Discours qui était très bien préparé parce que François Legault savait qu'il allait manger une volée. Il est sorti très tôt en soirée avec ce discours de défaite-là. Et on va aussi s'offrir quelques extraits du discours de victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Vous êtes à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
7h51 dans Boulevard Against le matin, Boulevard 102, Max Larouche à Saint-Évarel et Mathias Turcotte avec vous jusqu'à 10h. C'est 20 degrés Celsius à Québec présentement avec un beau soleil. On attend 33 degrés aujourd'hui, mais au-dessus de 40 avec l'humidex. Dans les prochains jours, bon, il y a demain où on a 29 avec 60% de possibilité d'averse, mais après ça, de jeudi jusqu'à lundi prochain, c'est pas mal juste du gros soleil avec des 26-28 degrés. Ça va descendre un petit peu au courant du week-end. Dimanche, lundi, mais surtout dans la nuit de dimanche à lundi, 7 degrés prévus au thermomètre. Mathias, à la circulation.
Oui, route de la Bravoure en direction de la base militaire. Il y a un ralentissement à prévoir, là, sinon tout est beau sur les routes.
On a fait entendre plusieurs extraits du discours de défaite d'Éric Duhaime hier. Cuisante défaite, là, près de 11%. La différence avec Alex Boissonneau, le vainqueur du côté du Parti québécois. Éric Duhaime pensait peut-être qu'il allait gagner. Puis ça peut expliquer le discours émotif qu'il a livré. Il y en a un qui savait qu'il allait pas gagner. Puis... il s'était préparé en conséquence, puis il est sorti très tôt en soirée. Au moment où il a concédé la défaite, François Legault, ou du moins concédé en fait la victoire à quelqu'un d'autre que le candidat de la CAQ, ben on savait même pas pantoute qui allait gagner. Ça s'enlignait déjà vers Alex Boissonneau, mais c'était encore assez serré pour qu'il puisse y avoir un revirement de situation. François Legault, comme je disais, est sorti tôt en soirée aux côtés de son candidat, Kevin Brasseur, et a pris le blâme, un peu comme il l'avait fait après la défaite dans Jean Talon. Mais là, les circonstances étaient différentes. Dans Jean Talon, on s'attendait peut-être à ce que la CAQ puisse être en mesure de se battre et de garder le siège. Là, hier, il n'y avait aucune chance que ça arrive dans Arthabasca. Et le diagnostic de François Legault est assez clair. Il ne s'est pas caché.
L'excuse facile, ça serait de vous dire, ah, c'est juste une élection partielle. Puis vous savez, les élections partielles, c'est toujours dur pour les gouvernements parce que c'est une bonne occasion pour les citoyens de dire « j'ai pas aimé telle ou telle chose du gouvernement ». Mais en même temps, faut pas se mettre la tête dans le sable. Je pense que les gens d'Arthabasca, l'érable, ont été les porte-parole de l'ensemble des Québécois. Puis ils nous ont envoyé un message très clair, très direct. Ils sont déçus. Les Québécois sont déçus de notre gouvernement. Puis j'aurais beau, là, vous parler pendant une heure des bonnes choses qu'on a faites en économie, des bonnes choses qu'on a faites en éducation, en santé, dans le domaine de la langue, la laïcité. Il reste que les Québécois sont déçus de notre gouvernement. Pourquoi ils sont déçus? Bien, entre autres, certains dossiers, et puis je vais les nommer, entre autres, ils sont déçus des pertes dans le projet Northvolt. Entre autres, ils sont déçus de la saga de Saclic. Ils sont déçus aussi qu'on n'ait pas fait assez pour améliorer l'efficacité des services publics.
Est-ce que de tenir un discours du genre, un discours de défaite du genre, c'était la bonne chose à faire pour François Legault?
Ben oui. Absolument. Il devait dire tout de suite dans ce discours, devait vraiment prendre cette posture où il comprend qu'il y a un message qui est envoyé et qu'il comprend c'est quoi ce message-là. Mm-hmm. Pas juste je comprends que vous m'envoyez un message d'insatisfaction. Là. Donc, nommer les choses, moi j'ai trouvé ça très, très noble de sa part, très, très humble de sa part aussi, de prendre le temps de d'énumérer certains éléments qui, on sait, ont fait mal dans cette campagne, mais vont faire mal aussi l'année prochaine. Donc, c'est un pas de hauteur, je dirais, de la part du premier ministre.
Tu parles de l'année prochaine. Jusqu'à preuve du contraire, François Legault va être là, va être le chef de la coalition Avenir Québec pour les prochaines élections. Va évidemment rester premier ministre jusqu'à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai pas cet extrait-là, mais mentionne aux gens d'Arthabasca qui va continuer à travailler pour eux tant qu'il sera premier ministre, même si, bon, c'est pas un caquiste qui a été élu puis qui n'ont pas à s'inquiéter, tout ça. Blablabla. Ça, c'était les belles paroles envers les gens d'Arthabasca. Ouais. Mais il y en a qui pensent que c'est un peu du bluff, que François Legault va rester, puis va rester chef de la CAQ. Puis je sais pas où tu te situes là-dessus, mais on va écouter cet extrait-là où il mentionne qu'il ne baissera pas les bras, qu'il va se battre pour les Québécois. Puis après ça, on jasera de est-ce que c'est du bluff que François Legault va rester chef de la CAQ pour les prochaines élections provinciales?
J'assume l'entière responsabilité de la défaite d'aujourd'hui. Bien, devant une défaite d'une telle ampleur, je pourrais baisser les bras, mais les gens qui me connaissent savent que c'est pas moi, ça, de baisser les bras. Je pense, surtout dans le contexte qu'on connaît actuellement, où on a Donald Trump qui nous force à redessiner l'économie du Québec, je continue de penser que mon expérience pourrait servir pour redessiner l'économie du Québec. Puis, je veux vous assurer que je vais me battre, mais pas seul. J'en vois plusieurs qui sont ici ce soir, là. J'ai une équipe extraordinaire. Donc, toute notre équipe, on va se battre. On va se battre pas contre tel ou tel groupe. On va se battre pour les Québécois. On va se battre pour les prochaines générations. On va se battre pour que le Québec reste le Québec. Et d'abord, au cours des prochaines semaines, on va se regarder dans le miroir.
Est-ce que François Legault va toujours être le chef de la CAQ pour la campagne électorale en vue des élections de novembre 2026?
Hey, c'est une bonne question que tu poses là, parce qu'il se positionne comme un chef de parti, qui va rester, qui va se présenter encore à nouveau l'année prochaine. En même temps, je vous l'ai déjà dit ici, il ne peut pas annoncer d'avance qu'il va céder sa place dans une course au leadership ou à quelqu'un d'autre. Là, s'il n'y a pas de course au leadership, je ne sais pas comment ils vont fonctionner ou comment ils fonctionneraient dans ces circonstances. Il ne l'annoncera pas d'avance. Quand il va l'annoncer, ça va se faire. Alors, c'est bien embêtant. Mais peut-être que cette défaite-là, hey, 7 % là, t'es en bas du Parti libéral du Québec, qui est déjà un parti complètement à terre, qui doit se reconstruire. T'es en dessous du score dans cette partielle-là, en dessous du score de la libérale, avec un candidat solide, il faut le dire. Là, le candidat de la coalition Avenir Québec, Kevin Brassard, c'était un candidat solide, un candidat crédible qui s'exprime très bien, qui maîtrisait très bien les lignes de son parti.
Un gars de terrain aussi, puis un gars qui avait l'air super apprécié. Tu sais, je pense que les votes de la CAQ qui ont été obtenus, là, les 7,2%, là, les 2600 votes ou à peu près, il doit en avoir pas mal que c'est pour le gars plus que pour le parti.
Ouais. Ben oui, oui, oui. C'est un gars qui est bien impliqué dans sa communauté, bien impliqué dans son parti aussi depuis longtemps, et il inspire confiance avec raison. Donc, si on a un score aussi faible avec un bon candidat solide comme ça, c'est sûr que ça va peut-être ébranler François Legault dans sa stratégie future. En même temps, il dit qu'il va se retrousser les manches. Les prochains mois vont nous le dire, parce que c'est sûr qu'on s'en ira pas à course à la chefferie après Noël. Là. Donc, si on est pour changer de chef, ça doit se faire avant Noël. Donc, on va le savoir cette année.
On fait le saut du côté des gagnants de la soirée d'hier, le Parti québécois. Alex Boissonneau, qui est le nouveau député d'Arthabasca. J'ai sorti des extraits du discours de victoire de Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef. Je vous rappelle qu'on aura Alex Boissonneau en entrevue sur le coup de 9h15 ce matin. Bien hâte de lui jaser. En attendant, déjà Paul Saint-Pierre Plamondon, puis on risque de le voir de plus en plus, mais se met à positionner le PQ comme vraiment l'alternative numéro un, le prochain gouvernement même.
C'est également très significatif comme victoire parce qu'on ajoute une autre pièce maîtresse, un autre pilier de ce qui peut constituer une équipe capable de remplacer la CAQ et de former un gouvernement solide en 2026. Et on fait ça dans un contexte où le Parti québécois avait obtenu seulement 10 % il y a à peine 3 ans à l'élection générale. Ce soir, nous sommes autour de 45-46. C'est une progression dont je suis tellement fier.
Y a-t-il un danger pour le PQ de trop se voir comme le prochain gouvernement?
Ah oui, ah oui. Le piège de l'arrogance pour le Parti québécois,
dangereux.
Ils sont déjà un pied dedans. Parce que durant cette campagne, il y a eu beaucoup de critiques à l'endroit de la manière avec laquelle le Parti conservateur et avec laquelle Éric Duhaime a mené sa campagne. J'ai tout autant de critiques envers le Parti québécois qui a mené une campagne sale, une campagne quand même mesquine, de petite politique. On était loin de la hauteur dont Paul Saint-Pierre Plamondon est capable d'avoir, qui avait annoncé avoir aussi quand il est devenu chef du Parti québécois.
C'est ce qui a fait son entre guillemets, charme au début. C'est ce qui a permis au Parti québécois de ne pas mourir puis de se rebâtir tranquillement. C'est la façon qui était différente de Paul Saint-Pierre Plamondon de faire de la politique. Puis là, en effet, si on tombe dans les entre guillemets, mauvaises façons de faire de la politique, ça va devenir dangereux pour le PQ.
Ça va devenir dangereux pour les PQ. Et moi, je sens qu'il a déjà glissé durant cette campagne partielle vers des campagnes plus négatives, des campagnes plus d'acteurs, qu'on n'est plus du tout là, dans le registre qu'avait annoncé Paul Saint-Pierre Plamondon et qui l'honorait vraiment très bien en 2022, notamment dans la campagne électorale 2022. Alors, il y a un piège flagrant devant eux qui semble avoir déjà commencé à se faire piéger. J'espère que ça nourrira pas cette arrogance parce qu'on les voyait là, festifs, festoyés. La gang de députés du Parti québécois, on est bien contents pour eux. Mais en même temps, il faut faire attention. Il y avait aussi dans ces votes-là un vote anti-Éric Duhaime.
Oui.
Ça, il faut en tenir compte. On va me dire, oui, mais ils ont quand même remporté la partielle dans Jean Talon. Ils ont quand même remporté la partielle aussi dans Terrebonne. Mais c'était toujours des votes aussi, soit anti-gouvernemental, anti-CAQ, ou dans ce cas-ci, anti-Éric Duhaime. Alors, dans une élection générale l'année prochaine, attention, il y a quand même une marche très haute. Là.
Paul Saint-Pierre Plamondon voit vraiment son parti, le Parti québécois, comme le parti des régions.
Il y a un parti qui peut fédérer partout au Québec, un parti qui peut gagner contre la CAQ, et c'est bel et bien le Parti québécois pour une raison simple. Nous sommes le parti de toutes les régions au Québec. On s'intéresse et on fait du travail de terrain en étant conscient des particularités et des différences de chaque région. Donc, que vous soyez à Victo ce soir ou que vous nous écoutiez de Blanc-Sablon ou de Rimouski ou Val-d'Or, sachez que nous serons sur le terrain avec cette idée, celle de René Lévesque à l'origine, de défendre son monde et de défendre chaque région avec le plus d'intensité possible.
Qui peut rivaliser avec le PQ dans les régions? Ça sera pas la CAQ. Ce sera pas le Parti libéral du Québec parce que l'effet Rodriguez semble pas être aussi fort qu'on le pensait. Est-ce que ça peut être le Parti conservateur? On sait que dans la région de Québec, il y a des bonnes chances, mais après ça, pour les régions plus éloignées, est-ce que le Parti québécois risque de former le prochain gouvernement grâce aux régions?
L'adversaire principal du Parti québécois dans les régions, ça va être le Parti conservateur. On l'a vu durant cette campagne-là. Et Éric Duhaime, le Parti conservateur, connaissent bien les régions pour de vrai. Ils n'ont pas besoin de s'intéresser aux régions pour les connaître. La preuve, un des enjeux sur lesquels le Parti conservateur a milité beaucoup, c'est cette interdiction de vente de véhicules à essence à partir de 2030, qui est chère aux yeux du Parti québécois. Quand tu connais bien tes régions, quand tu connais les distances qu'il y a à parcourir en Abitibi, notamment en Gaspésie, sa Côte-Nord, promène-toi. Si tu connais ton Québec comme du monde, tu vois bien que ça n'a aucun sens, cette idée d'interdiction de véhicules en 2030. Alors, déjà, le Parti conservateur a une grande longueur d'avance sur bien connaître les régions, bien connaître les gens des régions, savoir que les gens aussi tiennent à leur skidoo, leur quatre roues. Toute la ruralité, c'est quelque chose qui est très, très bien connu par le Parti conservateur. Bon, le Parti québécois dit qu'il sera le parti des régions. Je pense qu'il annonçait plutôt une orientation qu'ils veulent prendre plus qu'une posture qu'ils ont actuellement au Parti québécois.
9h15, j'ai très hâte de parler à Alex Boissonneau, puis j'ai notamment hâte de le questionner sur certains, sans dire des points de divergence apparents, des points qui pourraient être de divergence. On l'a entendu, c'est hier qu'on écoutait un extrait où il parlait de référendum, puis que lui n'était pas nécessairement prêt à assumer à 100% qu'il fallait faire un référendum dans un premier mandat, alors que pour Paul Saint-Pierre Plamondon, jusqu'à preuve du contraire, c'est non négociable. Ouais. On fait un référendum dans un premier mandat. Fait que très hâte de questionner Alex Boissonneau là-dessus aux alentours de 9h15. En attendant, voici ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait à dire hier dans son discours de victoire sur la peur d'un référendum, la campagne de peur qui a été menée par certains.
Puisque vous m'en parlez, c'est une défaite aussi pour les partis qui n'avaient comme seul argument la peur du référendum. On l'a vu dans cette campagne-là, des partis qui... Puis je vais être très honnête, il y a beaucoup de gens en Arthabasca qui partagent nos constats, mais qui, dans un contexte qu'on connaît aux États-Unis notamment, sont pas nécessairement... ils n'ont pas acheté l'idée d'une consultation populaire, mais ils sont au même endroit sur plusieurs enjeux. Et dans tous les cas, l'argument de peur de dire « moi, mon programme, c'est de parler de la peur du référendum », une espèce d'approche fédéraliste digne d'il y a 40 ans, où est-ce qu'on croyait que le Canada allait servir le Québec, que le Québec serait respecté dans le Canada, qu'on aurait le droit à un avenir linguistique et culturel dans le Canada. Le fameux Québec fort dans un Canada où est-ce qu'on fait des gros gains. Tout ça aurait été un échec, et ça, la population le voit bien. Puis oui, il y a un contexte géopolitique, puis il y a toutes sortes de facteurs, mais trop souvent, le Canada, dans les dernières années, a travaillé contre le Québec.
Ça va être un point à surveiller durant la prochaine campagne, de regarder tous les candidats du Parti québécois, là, puis de les regarder patiner sur des questions de référendum dans un premier mandat. C'est sûr, parce que j'imagine que n'importe quel candidat du Parti québécois sera souverainiste. Ça, j'ose l'espérer si on veut aller dans la bonne ligne de parti, là, pas comme chez Québec solidaire où c'est jamais trop clair, là. Mais référendum dans un premier mandat, c'est sûr qu'il y en a plein qui seront pas pour ça, là. C'est sûr. C'est trop... c'est pitché dans la défaite. Puis il y a bien du monde qui sera pas d'accord avec à quel point on va le dire, à quel point on va patiner. Juste tantôt, j'ai hâte de poser la question à Alex Boissonneau, de voir à quel point il va être encore aussi flou que la semaine passée durant un débat où il y a un dialogue à avoir, blablabla. Peut-être qu'il va être super clair aussi, puis que là, maintenant qu'il a gagné, ben là, il faut rentrer dans les rangs. Puis j'ai très hâte de voir les candidats péquistes patiner sur des questions de référendum.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui croient à cette importance d'un troisième référendum qui ne doit pas être brûlé. C'est une chance ou une opportunité pour le Parti québécois de ne pas, qui est importante à ne pas brûler, donc de ne pas la, à l'amener dans un mauvais contexte. Mais en même temps, Paul Saint-Pierre Plamondon a toujours été clair. Oui, on fera un référendum dans le premier mandat. Alors, comment ils vont s'en sortir avec cette question quand on sait qu'actuellement, ben, du moins... Pour l'instant, avec nos relations commerciales, les relations économiques, on sait qu'on a à reconstruire beaucoup de choses parce que notre économie a toujours été vulnérable. Mais là, on connaît toutes les vulnérabilités, on les connaît tous. Alors, c'est franchement, oui, t'as raison, ça va être un gros débat. Et on risque, malheureusement, par contre, de retomber dans les vieilles dynamiques qu'on a connues dans les années, il y a 40 ans, justement, sur cette peur du référendum. On a peut-être trop sacralisé le référendum comme étant un exercice tellement précieux et unique que chaque fois, il faut attendre un autre 10, 15 ans avant d'en avoir un autre. Moi, je suis en train de me demander si on ne devrait pas avoir des référendums sur la souveraineté à chaque année.
Mais non, mais on l'aurait.
Regarde, on teste. Non, mais on va arrêter aussi de faire peur aux gens. On ne fait pas peur aux gens. On a le pouls à chaque année, génération.
C'est un gros mot, référendum.
Mais oui.
Puis il y en a beaucoup qui n'en ont jamais connu. Oui. Moi, je suis né en 2001. Le dernier s'est fait 6 ans avant ma naissance. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais connu ça. C'est vrai que ça fait un gros mot,
ah oui?
Référendum.
Oui, oui, on a vraiment sacralisé. Il y a quelque chose de sacré dans faire un référendum sur la souveraineté, alors qu'on pourrait très bien se dire on va mettre en place un mécanisme où on sonde la population plus souvent.
Parce qu'à la base,
pas
c'est...
Pas jusqu'à temps qu'on laisse pas ça, mais on sonde la population plus souvent parce qu'elle change, la démographie change, parce qu'il y a des jeunes qui... ont soudainement le droit de vote. En tout cas, moi, je lance ça comme ça. Je pense que même je vais envoyer l'idée à Alex Boissonneau pour voir qu'est-ce qu'il en pense.
Au retour, on jase culture québécoise avec l'excellent chroniqueur Rémi Villemur. Boulevard.